Le titre que j'avais retenu, finalement, c'est « Roland dans le texte ». Pourquoi ? Parce que lorsqu'on m'a demandé de parler de Roland, je ne savais pas comment m'y prendre. Je n'avais pas envie de donner dans le pathos ou d'évoquer des souvenirs que vous avez tous. On a tous à peu près vécu les mêmes choses. On a peut-être tous des anecdotes à raconter. Je ne voulais pas quelque chose qui soit trop triste. Voilà. J'ai pas voulu faire une analyse de la psychosphère ou bien de Rêve de gloire, parce qu'il existe déjà des articles très bien faits sur le net, aussi bien sur les futurs mystères de Paris que tous les livres qui en font plus ou moins partie. Pour Rêve de gloire aussi, Simon Bréhan a fait une très belle analyse. Et on a peu parlé de son écriture, de son rapport à la SF, à la littérature, à la musique. Et donc j'ai essayé de lire Roland dans le texte et de choisir comme ça, au cours d'une promenade, en feuilletant les bouquins, des extraits de texte. Et donc ça va être plus sur l'écriture de Roland, et à partir de là, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. J'avais 14 ans lorsqu'un paysan de Bel Air m'a échangé la radio et une poignée de piles neuves contre un sac de cèpe. Et ma vie en a été transformée, comme on dit. Les émissions que je captais au hasard des fréquences m'aidaient à comprendre le monde où je vivais, ce monde d'où ma tribu désirait s'isoler pour mener une vie frugale et méditative, quasi monastique. C'est dans Mine de rien, et cette histoire de poste radio qui est une illumination ressemble peut-être à un fragment déjà de la vie de Roland, où il a eu quelques illuminations comme ça dans son enfance. Ce que je retiens de là, c'est comprendre le monde. Cet extrait, justement, de Mine de rien, est à mettre en relation avec une interview qui était parue dans Ozone en 96. Je lis de la SF depuis que j'ai 10 ans. Un jour, j'étais bloqué au lit à cause d'une maladie quelconque et j'ai demandé à ma mère de me ramener un bouquin sympa. J'ai dû lui dire un truc avec des fusées. Et elle m'a ramené La guerre des Grulles d'Alphonse Brütsch. Quand j'ai vu qu'il y avait marqué 452 sur la tranche, je me suis dit, merde, il y en a donc 451 autres. Et c'était tout un monde qui s'ouvrait à moi. Donc c'est un des rares lecteurs de l'intégralité de la collection Fleuve Noir Anticipation. Il est tombé dedans quand il était petit. Il a donc tout de suite voulu aussi en écrire, mais en écrire était notre paire de manches. Il a essuyé de nombreux refus, un peu comme tous les débutants. Ce qu'on peut retrouver peut-être ici, le plus difficile est de recommencer à vivre, pour la millième fois peut-être, d'identifier les innombrables objets de la vie quotidienne, d'en retrouver le mode d'emploi, de prendre à bras-le-corps le problème, à première vue insoluble, que représente chacun d'entre eux. Ne pas se décourager, jamais. Ça, il me semble que c'est quelque chose qui est vraiment inscrit dans les gènes de Roland. Hein, il veut y arriver malgré ses multiples refus. D'où des lectures actives, et non pas comme simple consommateur. En lecture avisée, Roland va toujours s'attacher à démonter les intrigues et à analyser les mécanismes et les procédés à l'œuvre. Alors ces critiques, qu'il a commis un peu partout, sont très instructives parce qu'on le voit dans ses commentaires traquer la structure, la construction de l'intrigue, l'adéquation du récit par rapport aux propos. Ce sont les secrets de fabrication qu'il traque chez chaque auteur. Il s'en fout un petit peu de l'histoire. Un exemple. L'auteur emprunte à diverses sources, puis il fait subir une torsion à ses emprunts avant de les intégrer dans une trame d'aventure trépidante. Et cette nouvelle utilisation lui fournit de quoi construire son récit page après page, par l'intégration d'archétypes issus d'autres champs littéraires. Alors que Doc Smith se lance dans la fuite, dans la démesure, en faisant feu de tout bois, Jack Williamson travaille en un sens à l'économie sans pour autant tomber dans la simple transposition, comme nombre d'écrivains moins doués ou moins consciencieux, dont les œuvres correspondent à la péjorative définition originelle du space opéra. On s'inscrit clairement dans la science-fiction populaire. Roland veut connaître à fond le space opéra, ses mécanismes, ses thématiques. Une autre citation. Or, si le space opéra constitue peut-être le cœur même de la SF, il est aussi l'un des avatars du genre, dont les archétypes sont les plus difficiles à manier, car ils ont au fait de se transformer en clichés. Le chaos, chez Moorcock. Le perpétuel affrontement de la loi et du chaos, qui semble si naturel quand on y réfléchit, est une très vieille idée. La partie émergée d'un archétype profondément enfoui en nous, qui hante l'humanité depuis bien avant l'apparition de l'écriture. Il semblerait qu'une bonne partie de la puissance de l'œuvre de Moorcock vienne de la façon dont il a su révéler ce concept, dont il en a fait un thème récurrent, primordial, On voit aussi sa quête des archétypes dans tout ça. Donc progressivement, Roland identifie les thématiques et les traitements à l'œuvre chez les auteurs qu'il admire. Et ses analyses sonnent justes. On voit qu'il a tiré de chaque lecture la quintessence pour en faire son miel dans ses propres récits. Ses critiques sont presque des leçons d'écriture. Très souvent, il s'abstrait du livre lui-même ou de l'auteur pour parler d'une manière plus générale de la science-fiction. Au moins sur le plan de la construction de l'intrigue, de la charpente d'un livre. Quand il parle de G.G. Arnaud, il a l'habitude de passer sans crier gare d'un genre à l'autre, à la manière des grands auteurs populaires. Mais la transition vers la SF est plus difficile, en raison de la spécificité de ses outils thématiques et de narration. Certains d'ailleurs s'y cassent les dents, échouant à appréhender l'essence du genre. Ils se cantonnent dans des poncifs qui vont le plus souvent de pair avec une méconnaissance des faits scientifiques les plus élémentaires. D'autres s'en tirent par la transposition, c'est par exemple le cas de Jacobin, dont les meilleurs titres sont ceux où il recourt aux thèmes ou aux techniques du roman colonial ou de la littérature d'espionnage. Mais G.G. Arnaud, en dépit de son manque d'intérêt avoué pour la SF, va d'emblée s'inscrire au cœur du genre pour en détourner aussitôt certains clichés. Très belle analyse. Donc pour les mêmes raisons, ces fréquentations vont devenir uniquement des lecteurs de SF, des gens qui partagent bien sûr les mêmes intérêts. Il échange et rêve avec André-François Ruault. Il lui faut aussi rencontrer les auteurs, confronter leurs positions, et il va faire le tour complet de la SF pour l'appréhender dans sa globalité. En 1974, mes parents m'ont dit que si j'avais mon BEPC, j'aurais le droit d'aller à la convention. Je l'ai eu, et c'est comme ça que j'ai rencontré Michel Jury, Julia Verlanger, Christine Renard, Claude Chénis, Gérard Klein et Louis Thurion. Lui et Éric Vial, même âge, magnétophone à la main, interviewent tous les auteurs présents. Bon, on en a déjà parlé ici, hier. Se souvenant de cela, Michel Jury, à Montpellier, la librairie Sorance, où tous deux présentaient leur dernier ouvrage, « Mais le monde pour l'un, rêve de gloire pour l'autre », disait avoir déjà reconnu chez l'un le plus brouillon et le plus exalté, le potentiel littéraire, et chez l'autre les talents plus ordonnés de l'universitaire. Pelot, comme Jury aussi, se souviennent de l'avoir vu débarquer un jour sans crier gare à la maison, à la nuit tombée après une journée de stop. Il était même complètement trempé, je crois, quand il avait frappé au volet de Pelot, qui ne s'attendait pas du tout à cette visite. Alors en fait, Roland analyse là ce que l'auteur a compris de la science-fiction, comment il l'utilise et ce qu'il va en faire. Et ce regard est sans cesse actualisé et affiné. La critique de Isolation, Greg Egan. Egan a compris que la philosophie est désormais indissociable des sciences en général et de la physique en particulier. Il parvient à apporter des réponses à la fois sur l'humain et le cosmique en créant un modèle d'univers d'une rigueur scientifique sidérante. Même si l'interrogation sur la réalité est très dickienne, le ton du récit et la conclusion sont très différents. Pour Dick, toute réalité est illusion, tandis que pour Egan, toute illusion est réalité, probabilité parmi les probabilités. Bon, là, chapeau à Roland pour faire une analyse comme ça sur Isolation. On remarque ici donc la clarté de l'exposé, la hauteur de vue. On peut en donner un autre exemple, c'est Requiem pour Philippe K. Dick de Bishop. En ces temps de néoclassicisme où l'on ne se préoccupe plus guère que la science-fiction aille de l'avant vers de nouveaux thèmes et formes d'expression, l'Uchronie peut constituer une porte de sortie pour ceux qui ne tiennent pas à se laisser enfermer dans des schémas maintes fois revisités. Ce jeu sur l'histoire offre en effet un éventail suffisamment large de possibilités, tant littéraires que science-fictives, pour en quelque sorte libérer l'imagination des carcans où la fidélité à un état passé idéal, purement mythique, est-il besoin de le préciser, risque de l'enfermer à la longue. Donc se dessinent avec ces deux extraits les deux tendances peut-être de Roland, davantage de science, donc une certaine documentation sérieuse lorsqu'on veut écrire de la science-fiction, sur la physique quantique par exemple, il va bien se lancer là-dedans, et un renouvellement de l'imaginaire avec des stratégies différentes comme l'Uchronie. La science, on sait qu'elle est à l'œuvre dans les futurs mystères de Paris, elle est englobée dans la partie romanesque, elle n'est pas au centre, mais elle en est directement le sujet. Le centre reste quand même l'histoire. Un petit exemple, cette faille, sans doute une séquelle du psychataclysme, émet en permanence un flot de psychons. En temps normal, ces objets quantiques, analogues à des ondes et ou à des particules, dont ils ne représentent qu'un autre aspect, ne peuvent se maintenir plus d'une fraction de seconde dans nos trois dimensions. Aussitôt produits, ils migrent vers un continuum plus adapté à leur nature. Mais les abords de la faille en sont saturés au point que leur présence influe sur les conditions physiques locales. À partir d'une certaine concentration de psychons, on assiste à la formation d'un embryon de continuum à 8 dimensions temporelles. Tiens, tiens, voilà qui m'ouvre des horizons. C'est M qui dit ça. Donc, on voit comment il a pu reprendre un petit peu les données de la physique quantique et les injecter carrément dans son récit. Alors, de tout ça, il en parle, hein, avec les uns et les autres, pour confronter ses idées, recueillir leur opinion. Nous étions à la cavalerie chez Frémion à la fin des années 90, lorsqu'il me parlait de sa conception des intelligences artificielles, se disant que si le support physique, c'est du silicium, il pourrait prendre n'importe quel matériau qui permettrait aux électrons de circuler, et à ce moment-là, l'intelligence peut être mobile et apparaître sur n'importe quel support. Il était très fier d'avoir trouvé cette idée, et je crois qu'il a essayé de la confronter avec plusieurs d'entre nous. Il n'a pas non plus cessé de se tenir au courant. Il en parle parfois avec Éric Pichol. Je me souviens d'une question qu'il lui avait posée à propos, je ne sais plus de quel problème de physique quantique. Bon, il voulait connaître le principe, pas le détail. Hein. Il ne fait pas de la hard science. Mais sa question est déjà orientée par rapport à un point très précis de son intrigue en cours pour résoudre un problème narratif. Et puis je l'entends encore dire « d'accord, d'accord ». Sans en discuter rien de plus, la main pinçant le manteau, et qui imagine déjà les rebondissements ou les parties qu'il va pouvoir tirer de ces informations. Donc, son approche de la science ne passe pas par l'exactitude formelle, mais utilise le matériau des possibles. On le voit, il ne se dit pas non plus justement spécialiste, un extrait des derniers jours de mai. Un peu préoccupé tout de même, j'ai feuilleté le manuscrit de Bolkenstein. Hormis quelques notations ça et là, rédigées en français ou en allemand, l'essentiel en était incompréhensible pour moi, tout en formules mathématiques obscures, employant des symboles dont j'ignorais jusqu'à l'existence. L'effet de science, par contre, va se trouver dans des expressions imagées, qui donnent l'impression que des technologies de pointe sont suffisamment familières pour être reprises par le grand public. 2 heures durant, je fus renvoyé d'un bureau à l'autre comme un électron dans un accélérateur de particules. Chimviande, un néologisme comme on en rencontre plein en science-fiction, semble chez lui passer dans le langage familier. On n'a pas besoin d'expliquer comment on fabrique chimiquement de la viande. Le fait même de le désigner par une expression populaire et non pas un terme d'ingénieur montre à quel point elle est devenue banale. Et on s'amuse aussi des expressions comme « grand Turing » ou « bol de soupe » qui sont utilisées comme des jurons exclamatifs, mais qui tout de suite nous plongent dans un certain univers. Deuxième partie de ses projets littéraires, l'Uchronie, on voit que Roland ruminait déjà Rêve de gloire avec certaines des critiques que j'ai citées. Il en parlait aussi beaucoup, son utopie algérienne, je crois qu'il en a parlé pendant des années, pas seulement à ses bêta-lecteurs, mais à toutes ses connaissances, une fois de plus, pour recueillir leurs opinions. À d'autres, il parlait d'une histoire alternative du rock. Bon, ce qui l'intéressait là-dedans, c'était de démanteler les idées reçues, les opinions arrêtées pour essayer de faire une autre remise en perspective, voir autrement l'histoire réelle. Il est vrai que la perspective pour lui, gamin, était singulièrement faussée et qu'il a dû la rectifier au fil du temps. C'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle il veut utiliser l'Uchronie de cette façon-là. Né à Bab El Oued, en Algérie, un père militaire avec une vision assez étriquée de la situation, qu'il a pu restituer dans Rêve de gloire, mais dont on trouve la trace ailleurs. Ce sont aussi probablement ces lectures SF qui l'ont empêché d'épouser les vues réductrices du milieu ambiant. Et c'est en cela que la SF est étroitement liée à la trajectoire de Roland et à son développement intellectuel. Un seul exemple, il parle de Rêve de fer de Spinrad. Au début, il a déjà vilipendé tous ceux qui avaient interdit le bouquin en y voyant une apologie fasciste, voire un roman pornographique en disant qu'il n'est pas du tout question de sexe dans Rêve de fer, même si, évidemment, il y a quelques scènes explicites. Et il ajoute, dans mon cas, ce roman aurait même agi comme un vaccin, ou du moins un rappel à son encontre lorsque je l'ai lu vers l'âge de 14 ans. Par son interprétation psychanalytique exacerbée, il m'a permis de prendre conscience, peut-être pour la première fois, du terrifiant lavage de cerveau, de cette épouvantable implantation de mèmes de haine dont mon père, né en 22 en Allemagne, a été victime pendant son adolescence. Merci Norman. C'est déjà une façon de lire Rêve de fer, différente des autres chroniques qu'on a pu voir à ce moment-là. Donc on voit donc que Roland, conquis par la SF, cherche à connaître les méthodes de production. Et ce qu'il veut connaître, c'est structure, schéma narratif. Et c'est normal qu'il se sente en parenté avec ceux qui vont dans la même direction que lui, par exemple Evangelisti, s'il critique le mystère de l'inquisiteur Émeric, le schéma général de l'histoire du futur évangélique se met en place et il est frappant de constater combien cet avenir dystopique plonge ses racines dans le passé et plus précisément à l'époque d'Émeric. Certes, ce lien est avant tout une commodité littéraire, mais il est probable qu'il possède un sens que les prochains volumes finiront peut-être par dévoiler. Un commentaire à rapprocher de sa propre série des futurs mystères où des liens aussi apparaissent progressivement au fil des volumes. Alors, il va de soi qu'un auteur décrit chez les autres ce qui correspond à ses interrogations ou à ce qu'il a identifié comme un procédé qui pourrait lui servir. Voilà ce qu'il dit de Arnaud. André Ruellan dit que lorsqu'on se repenche sur quelque chose en quoi l'on avait cru, on l'aborde généralement sous l'angle de l'humour. Même si Les Ganéciens, chez Arnaud, n'est pas à proprement parler un livre des opilants, il est clair qu'il tire sa force d'une certaine distanciation face à une situation qui, comme on l'a vu, s'enferme dans une spirale d'absurdité. Alors c'est marrant que dans une critique, il arrive à reprendre les commentaires de Ruellan, non pas dans un bouquin, mais dans une conversation, pour l'injecter sur son commentaire de Gigi Arnaud. On comprend aussi avec cette remarque la veine parodique de Roland qui innerve son œuvre comme une nostalgie de ses lectures d'enfance. Quelle est sa forme d'humour? Les contrepaix, les jeux de mots abondent. La dernière charge de la Morve d'Or, c'était la grande époque avec Francis Saint-Martin. De tout ça, de toute manière, on est très familier en science-fiction. On en a même fait un sport national, c'est pas Raymond Milesi qui me contredira. Ceci dit, j'ai toujours été surpris de lire au quatrième de couverture des Fleuves Noirs des Futurs Mystères de Paris le commentaire suivant. Roland s'est aperçu un jour qu'il avait de l'humour. Bon, il s'en est pas aperçu un jour, il l'a toujours eu. La preuve, justement, c'est tout ce qu'il écrivait dans les fanzines, le cycle du fandom, bien sûr, avec Michel Paget, le Super Joanne, etc. Il a toujours eu cette forme d'humour. Peut-être qu'il ne s'autorisait pas à l'écrire dans des publications vendues en kiosque et en librairie, d'autant plus qu'il s'était fait refuser quelques textes au départ. Il entre au Fleuve Noir grâce à Alain Paris. Ils ont écrit tous les deux la course du Springbok à travers le Veld, et une fois de plus, c'était Alain qui lui avait proposé de faire le livre à deux. C'est encore une référence littéraire, bien sûr, ce titre-là. Et s'il avait sympathisé avec lui, c'est que l'année d'avant, Alain Paris avait publié un bouquin intitulé « Reich, la cité des hommes de fer » en collaboration avec Jean-Pierre Fontana. Alors on peut peut-être y voir un lien avec sa lecture de Spinrad, et donc il voit toujours des échos, des liens chez les uns, chez les autres, et aussitôt il intervient, il réagit. C'est aussi sous pseudo que pendant cette période-là, il publie ses premiers délires au sein du Fleuve Noir, les psychopompes de Clash, signé Red Def, avant que ce pseudo soit plus ou moins commun avec Jean-Marc Ligné. Donc c'est un peu le mode de fonctionnement de Roland, les jeux de mots. Je me souviens d'une fois avec Sylvie le matin qui se désespérait d'entendre Roland faire des vannes, des blagues vaseuses qui roulaient les yeux, et Roland qui expliquait qu'il n'y avait absolument rien à faire. Le matin, pour se réveiller les neurones, il faut absolument qu'il sorte des jeux de mots à la suite. Il disait « c'est mon oxygène, c'est mon moteur ». Bon, Sylvie, supporte, s'il te plaît. Donc c'était aussi une méthode pour développer des idées. En témoignent les publications de Francis Saint-Martin, où de nombreux contributeurs brodent les aventures de Bob Moran et de Doc Savage, des pastiches, à partir de titres détournés. Donc ce sont les titres qui fournissent l'idée. Et ça rappelle une fois l'humour qui vient avec... de ce qu'on a aimé, on en fait de l'humour. Alors c'est peut-être pas un hasard si Roland a écrit « Comment j'ai livré certains de mes écrits », qui est une référence bien transparente au bouquin de Raymond Roussel, « Comment j'ai écrit certains de mes livres », où justement Roussel parle de ces méthodes qui jouent sur le double sens des mots, et à partir de là il construit une intrigue. Roland procède exactement de même. Évidemment, ça débouche souvent sur des idées délirantes, assez tordues, et les justifier est un véritable enjeu. Mieux, un défi, et qui excite Roland. Je reprends son interview. « J'aime me servir des idées qui sont à l'extrême limite de l'invraisemblable, sans pour autant mettre en danger la crédibilité. Je me suis appliqué à faire un roman lisible. Je n'ai pas essayé de faire du style gratuit. Je me méfie toujours du style. C'est un obstacle entre les idées et le cerveau du lecteur. J'ai donc retrouvé deux ou trois idées irritantes avec lesquelles je m'amuse. » Donc, le jeu de mots, c'est une forme d'humour très cérébral. On voit que Roland tient à toucher l'esprit du lecteur hein, avec une fluidité du style. Ça signifie donc qu'à l'inverse, il ne veut pas travailler le style, il va travailler l'intrigue. Celle-ci, elle est bien travaillée, surtout lorsqu'elle est complexe. On retrouve là le saltimbanque, l'équilibriste, hein, qui avec une pirouette rend acceptable la plus tordue des intrigues. Comment ? Avec l'accumulation, le plus souvent, en mettant de nombreuses intrigues, plusieurs objets, on peut multiplier les points d'appui pour passer d'une idée à une autre, établir des liens et ficeler l'ensemble. L'argument logique qui articule entre elles deux idées ficelées sont plus ou moins étayés dans le détail. Tout le monde approuve quand il a le nez dessus. Vu de loin, c'est moins évident, mais c'est trop tard, le tour est joué, et puis Roland nous a emportés dans son histoire. Et en plus, il aime bien les intrigues polars, c'est ce qu'il dit, j'ai souvent utilisé la structure d'enquête, car c'est un moyen agréable de progresser dans l'histoire. Parce qu'elle va justement très lentement, et ça permet de s'arrêter sur un point, de le justifier, et puis on oublie après quel était le premier point qui avait été justifié. Voilà comment il le fait dans « Les futurs mystères de Paris ». Si la psychosphère a pu demeurer fragmentée pendant tant de millénaires, alors que les cerveaux qui l'alimentaient en psyché étaient dispersés à la surface d'une même planète, il paraît raisonnable de supposer que l'ensemble de champs la constituant ne s'étend pas à l'espace intersidéral. C'est Bob Goldstein qui parle, il m'a jeté un coup d'œil inquisiteur. Vous voyez désormais à quel événement je fais allusion. Vu sous cet angle, ça me semblait clair. Aux premiers hommes dans la Lune, Wolgenstein a acquiescé les yeux mi-clos. Il était bien bon de m'en laisser placer une de temps en temps. Exactement. Des êtres humains se sont retrouvés coupés de la psychosphère. C'était déjà arrivé lors des vols en orbite lunaire, mais aucun d'eux n'avait dû focaliser l'attention d'une aussi grande quantité de gens sous l'effet de psychédéliques. Vous pensez que c'est ça qui a détraqué la psychosphère ? Wolgenstein a fait non de la tête. J'aurais apprécié qu'il cessât de me considérer de haut, mais ce n'était pas au programme, apparemment. Si je voulais savoir, je devais supporter sa morgue. Donc nous avons toujours des petites interventions, des didascalies presque, si l'on veut, qui permettent de retarder les révélations et de ne pas donner quelque chose de trop compact qui serait difficile à digérer. Pour ça, c'est toujours une question de rythme, hein, qui permet de restituer un ton, une ambiance. Wolkenstein, la manière dont j'ai appuyé les mots, c'était des mots en italique dans le texte, il avait une manière de parler qui appuyait sur certains endroits de la phrase à des moments inattendus. C'est de cette manière-là qu'il restitue une ambiance, un ton, et finalement, ça devient un style, ça. Ça donne de l'épaisseur de toute manière au réel. Donc il arrive à avoir du style sans jamais renier ses principes de base, c'est-à-dire ne pas parasiter l'idée et ne pas heurter le lecteur, s'adresser directement à lui, avec des tournures, avec des manières de parler. Il insiste souvent sur les accents toniques. Sur les accents toniques, dans à peu près tous les romans, les personnages ont dit quelle est leur manière de parler, quel est leur accent, qui montre qu'ils sont de telle origine ou qu'ils sont de telle époque aussi. Il est apte à saisir un mot ou une expression. Il guette le langage de rue et il l'invente au besoin. Un exemple. Curieusement, les végètes, je préférais ce terme à celui de végétard, vous voyez, trop lourdement chargé de connotations péjoratives, n'avaient guère réagi face à cette prise de position officieuse. Toujours, et on précise donc le vocabulaire. Il est très précis justement dans le choix de ces néologismes. Comme la majorité des auteurs de SF, hein, Roland en met partout dans ses textes, avec des références aux œuvres que l'on a bien aimées, aux grands anciens. Sauf que lui ne sert pas platement des noms référencés pour désigner des objets, des lieux ou bien des lois, une loi Asimov par exemple, mais intègre plus finement la référence dans le langage courant. On peut trouver « fichtre-lui la paix, Morlocar, Wells », ou des extraits identifiables. Quand nous étions encore des hommes des cavernes fuyant la nuit épouvantable. C'est la référence à Ronny, voilà. La première phrase de la guerre du feu. Donc Roland très astucieusement a compris qu'il fallait éviter de bâtir son univers avec des noms qui se réfèrent à des œuvres antérieures. Parce que l'univers du coup devient déjà une référence, il n'est plus tellement original. En revanche, il utilise, surtout pour ses aïas, des patronymes, extraits de chansons de rock, Pascal Thomas pourrait identifier tous ces noms-là. Pour ce qui est des noms utilisés dans les futurs mystères de Paris et l'emploi de patronyme désuet, c'est cette fois un hommage direct à Eugène Sue. Je cite, « L'héroïne victime d'alors se nommait Fleur de Marie, la plaignante frangine d'aujourd'hui fait partie d'une secte, comme la majorité des mutants, où son nom est Sylvie Boisée sous un ciel changeant. Le ciel et les plantes. C'est beau, non ?» Le réceptionniste de l'hôtel du Panthéon rappelle, par son bagou et sa bavardise, le fameux concierge Pipelet, dessus, dont le nom devait devenir un nom commun. Comme dans le roman feuilleton de 1842, les personnages, plus pittoresques les uns que les autres, certes à montrer des milieux étranges et à représenter des crimes affreux, le tout étant couronné finalement d'une juste punition. Pas de pitié pour ceux qui tuent des bouquinistes. La balle du néant n'est pas un roman social, et ce n'est que le premier volume d'un cycle prometteur. Le cycle dessus fut édité en 10 volumes, dont la qualité première est peut-être sa légèreté. Comme idole, thème ne choisit pas Marlowe, mais Nestor Burma. On voit que tout est réfléchi avant la série. Là, il n'avait écrit à ce moment-là que le premier tome. Hein. Et on voit bien aussi que pour le moment, il n'y en a eu que 9. Il manque le 10e par rapport à la série de départ, d'origine de Gene Sue. Quand il commence les futurs mystères de Paris, la monnaie unique qu'il met dans le livre, la monnaie unique était déjà annoncée et devait être l'écu. Et lui, dedans, avait mis l'euro. Il était fier d'être tombé juste. Il avait dit, il m'avait dit une fois dans une conversation, moi j'aimais pas l'écu, ça sonne trop médiéval, ça sonne mal, c'est pas joli, et j'ai préféré changer pour l'euro. Bingo. La mise à niveau du langage est constante chez lui. C'est une invention permanente de néologismes et de façon de parler, mais différente selon les bouquins, selon les thèmes. Il s'agit encore de logique par rapport au futur envisagé. Les nœuds de pas de page du champ du cosmos précise ainsi des tournures, des expressions ambiguës, comme si le roman qu'on est en train de lire avait été traduit pour le lecteur contemporain. C'est très curieux, c'est insistant donc sur le langage, le vocabulaire, les expressions. C'est donc un souci de réalisme, en se disant que dans le futur on parlera différemment, de même qu'il avait fait remarquer dans cette crédit qui nous ronge que la planète Océan est tellement éloignée du reste de la galaxie où ont essaimé les humains, que le langage est différent. On va en avoir quelques exemples. Océan produit de la bonne bouffe, écrit en un seul mot, tout comme Blow exporte des minerais. En échange, la Terre nous fournit les objets manufacturés dont elle estime que nous avons besoin. Les prothèses mec n'en font pas partie. Mais vous êtes fait sectionner exprès ? On m'avait prévenu qu'avec le temps, la langue utilisée sur Océan s'était écartée du francine terne. Mais je ne pensais pas que c'était à ce point, surtout pour la prononciation. Vous voulez dire amputé, manquis-je ? Non, bien sûr, j'ai perdu mon bras durant le voyage. Erreur d'hypothermie. Et on vous a cibé ? Coupa l'homme. Il vous manquait juste un bras et on vous a cibé ? Je voulus lui répondre que l'on informatisait souvent des individus en bonne santé, mais le réceptionniste ne m'en laissa pas le temps. C'est Kunzen, laissa-t-il tomber. Avec Sylvie Denis, il a traduit « Il est parmi nous » de Spinrad. Et là, je me souviens, admiratif du livre, il m'avait téléphoné, d'abord pour me demander d'en faire une critique dans Génération le blog, et voulait savoir surtout comment je trouvais le personnage de Foxy Loxy, surtout le langage. Il avait trouvé ça génial de la part de Spinrad. C'est un langage complètement déstructuré d'une junkie. D'ailleurs, il a dit que c'était tellement difficile à traduire que c'est une partie qu'il a laissée à Sylvie. C'est Sylvie qui a traduit tout ça. Voici ce que ça donne chez Spinrad. Au moment où elle n'a plus du tout sa raison, cette fille.
Parce que pour un rat, les images, elles entrent dans les trous de rat du crâne et à l'intérieur de ses petits yeux brillants et dans une espèce d'ordinateur qui se bloque tout au fond de son cerveau, dans le monde de la mort ou quelque chose, aussi froid et dur que de la glace de métal lourd, c'est parfaitement ce qu'il cherche. Alors, tout ce qui te reste à faire, c'est de rester assez là, se lire, regarder ce qui bouge devant tes trous de rat qui voit tout comme t'as été programmé pour, comme une putain de grenouille qui attend la bonne cuche, comme un vautour sur un rocher qui attend que tes trucs meurent. Si t'es un rat du monde de la mort, l'avion où t'es coincé dedans n'a pas besoin de savoir ce que t'attend, Foxy Loxy, parce que tu reconnaîtras l'ennemi quand lui, il te verra.
Lorsqu'est paru Rêve de gloire et que j'ai vu certains passages, l'écriture, j'avais pigé que Roland tentait de refaire le coup de Spinrad. Du moins qu'il l'avait à l'esprit, avec notamment une junkie. C'est ce qu'il explique à l'UFM de Nice en mai 2012, lors d'un colloque sur enseignement de la langue par le biais de la science-fiction. Le bouquin, c'est SF et didactique des langues, édition du Somnium, le colloque était organisé par Estelle, et donc vous trouvez le bouquin là-bas, bien sûr. Il disait qu'il avait fait intervenir dans Rêve de gloire le Patawet, qui est un sabir d'Afrique du Nord, une sorte de créole, un parler pied noir, et qui avait inclus en même temps des mots de diverses origines. Voilà ce qu'il disait, c'est une intervention retranscrite par Hugo Bellagamba. Le jeu sur le vocabulaire permet d'accentuer le décalage à peu de frais. Pour Rêve de gloire, j'ai développé tout un vocabulaire spécifique dans différents domaines qui se télescopent avec le monde moderne. Ainsi, comme le rock qui est français, on ne parle évidemment pas de heavy metal, mais de métal lourd. Le garage rock fait place au gymnase rock, parce que les musiciens français répétaient dans des gymnases plutôt que dans des garages comme aux États-Unis. C'était amusant de voir ce qu'on pouvait décaler ou pas. Le reggae reste par exemple le reggae, je ne voyais pas comment faire autrement. J'avais gardé en tête, venant d'un roman en anglais, la musique de « Il est parmi nous » de Norman Swinrad, que je venais de traduire avec Sylvie Denis. Je me suis complètement interdit d'aller aussi loin que lui, parce que je ne voulais surtout pas risquer de me retrouver avec un personnage construit avec le même genre de procédé que ceux qu'il a inventés pour montrer la dégradation mentale de Foxy Loxy. Les contraintes étaient différentes pour le train de la réalité, qui dans le même univers se présente comme un recueil de fragments et s'adresse à un public d'amateurs de SF plus avertis. Là, du côté des choses extrêmes, je me suis lâché. Une nouvelle entière est même écrite en patawet. Le texte est court, j'ai passé énormément de temps. Inutile de dire que ça a été vraiment très difficile, mais ce fut une expérience assez étonnante. On peut donner un exemple de ce savoir dans le train de la réalité. Joe, c'est... Alors, l'accent en moins, j'aurais pas l'accent pied noir. Joe, c'est sûrement le plus vieux des Pinkés. Le seul né dans les 40, ça tombe bien, quand la plupart des autres sont des 60. Et Joe, la stronga, c'est toute sa vie. Attention, pas celle des bains de plastique qui pétaient partout pendant la guerre. Non, la stronga des groupes de rock, qu'elle fait tout un barreau dans la casbah au temps des Vautriens. Joe, il veut toujours poser la chansonnette. Bah, c'est pas de sa faute s'il chante faux. Et puis alors, je dis pas, comme une batterie de casserole fêlée. Aïe, 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 quelle misère. Bah, Joe, il est tellement Jobas qu'il s'entête pas malgré les tomates qui se prend. Et beau, des groupes, ils continuaient à l'essayer, peut-être pourquoi il est un peu le courant de la casbah, et qu'on peut compter sur lui quand il y a une maroufa. Voilà. Donc le style au service du récit apparaît souvent dans les dialogues, mais comme il y a beaucoup de romans à la première personne, et de narration à la première personne chez Roland, c'est donc pratiquement le texte entier qui restitue l'essence de l'intrigue et qui guide le lecteur sur la façon dont il faut lire ou du moins appréhender le texte, facétieux, élégiaque, neutre. Et c'est pourtant une narration dont il se méfie, celle à la première personne. Il disait, cela faisait longtemps aussi que je n'avais pas utilisé la narration à la première personne, ici pour les futurs mystères de Paris. C'est extrêmement jouissif et dangereux à la fois, car le narrateur devient un porte-parole et il faut faire attention à ne pas devenir trop imposant. Après tout, le narrateur a peut-être ses propres idées. Et pourtant, son chef-d'œuvre est construit ainsi. Rêve de gloire. Pourquoi ? Parce que la multiplicité des points de vue lui permet d'être le reflet sincère et fidèle de chaque personnage. D'ailleurs, même à ses débuts, le style qu'il tente d'injecter dans ses récits, souvent lyrique, parfois un petit peu romantique, aussi entre le regard neutre, objectif, et le monde intérieur du protagoniste. Il n'arrête pas de jouer à ça. Donc, un exemple, il flotte là, hors monde, hors temps, quand le souvenir s'impose à lui, pour la première fois depuis la précédente, il y a si longtemps. Quelques minutes, qu'il est incapable d'avoir une idée du nombre de moments, d'heures, qui se sont écoulées entre-temps. Il est debout une fraction de seconde, éveillé, lucide, tous les sens en alerte. Un torrent de perceptions inacceptables l'emporte dans un tourbillon synesthésique. Vive lumière, martèlement du cœur et des talons battant au même rythme. Et je ne connais pas ce quartier. Rue changeante, regards inquiets, sentir cet arbre croître. Mais ce n'est qu'un réverbère, cascade d'étincelles des feux des véhicules comme des protubérances solaires vues au télescope. Qu'est-ce qu'un télescope ? Je m'éveille, au bord d'une place, je m'éveille, à la terrasse d'un bar fermé. Il doit être tard, ciel d'un rose jaunâtre, déliquescent, les lumières de la ville qui s'éveillent. Et moi aussi je m'éveille, je m'éveille, je m'éveille. Pour la millième fois peut-être. Ça ne va pas, monsieur ? Bien sûr que si. Qu'allez-vous chercher là ? C'est cette musique qui me gêne un peu. Quelle musique ? Vous êtes sûr que ça va ? C'est moi qui vous le demande. Il n'arrive pas à déterminer quelles répliques sont les siennes, lesquelles sortent de la bouche de son interlocuteur. Un mauvais moment a passé. d'autres viendront. Alors cette question de synesthésie est récurrente chez Roland. Je me souviens d'une de ses chansons qui évoquait le même mélange des sens. Elle est surtout ancrée chez lui parce que, dans une certaine mesure, Roland veut toujours établir donc des ponts, des liens avec l'ensemble de ses passions et finalement avec tout ce qui fait monde. Il y a chez lui un souci d'unité, hein. Unité du groupe, du petit monde de la SF. Lorsque j'avais eu le premier Osni Aîné 2001, il a dit « Ah, c'est encore le 20e siècle ». On était encore en train d'applaudir, comme il fait très souvent, il vient un petit peu courbé, il s'accroupit à une table et il dit quelque chose, il dit « ça y est, tu fais partie de ceux de la génération qui n'avait pas encore eu, qui devait l'avoir ». Lorsqu'en 2009, nous étions à Peresque, autour de Gérard Klein, on parlait des subjectivités collectives, et c'était l'anniversaire de Gérard, donc il y a eu un beau gâteau, et il y avait à peu près beaucoup d'auteurs et de critiques, lecteurs de science-fiction. Pour faire la fête à Gérard, j'avais lu un petit texte de ses bouquins, d'autres avaient fait quelques plaisanteries, on rigolait bien, et là il est venu me voir, il a dit « Tu vois là, ça, maintenant on est une famille. » Voilà, la famille science-fiction. Unité temporelle, dans la mesure où il tente d'établir un lien entre le passé et le présent. C'est pas dire qu'on peut pas se fâcher avec notre famille, hein. Une unité temporelle, dans la mesure où il veut rendre justice aux ignorés et aux oubliés. Il prend la défense de Louis Thirion. Il entretient la flamme des grands anciens. Il rend aux narrations tombées en désuétude la place qui leur revient, plutôt que de dire « bon, ben ça, maintenant, c'est dépassé, on oublie ». C'est en cela qu'il se fait historien de la science-fiction. Un des projets qu'il n'a pas eu le temps de mener à bien était une histoire de la science-fiction française. Et il est attaché à rendre à chacun la place qui lui revient. Ainsi, défense et illustration de Miss Univers. S'il existe une sensibilité masculine et une sensibilité féminine, j'ai bien dit si, elle n'entre que modérément en compte lorsqu'on aborde le plan de l'écriture. Enfin, pas plus que tout autre élément constituant de notre personnalité. Je défie quiconque d'identifier à coup sûr le sexe de l'auteur d'un texte. Par contre, il existe à mon sens une sensibilité d'écrivain partagée par les deux sexes qui balaye les frontières et se situe au-delà de distinctions aussi triviales que l'aspect des organes dans la nature nous a gratifiés entre les jambes. Ces derniers ne jouent qu'un rôle dans un ensemble plus complexe. Ceux d'entre vous qui continueront à douter sont invités à se procurer un roman aussi machiste que La Croix des Décastés de Gilles Thomas, ou à lire et à relire l'œuvre de Joël Maintrobert, pourtant bien différente de celle de sa défunte consœur. Le titre de l'article est éloquent, Défense et illustration. Et comme il fait remarquer, notre société demande aux femmes, bien plus encore qu'aux hommes, de prouver leur valeur. Il me semble que Joël y a réussi, accomplissant le tour de force de prouver qu'elle était avant tout un écrivain, un être humain. La dernière remarque montre à quel point la personne et l'écriture se confondent chez lui. Indirectement, il évoque aussi sa propre obstination, le parcours du combattant, pour devenir un auteur à part entière. Ce qu'il disait à l'époque, c'est dur, mais c'est faisable. Cela implique de bosser, ce qui est assez gênant pour un gros feignant comme moi. L'état du marché change tout le temps. Actuellement, il semble plutôt favorable, les tarifs et les ventes augmentent. Je ne vis vraiment de l'écriture que depuis le début des années 90, et plus ou moins bien selon les années. Cela prend du temps. Mais comme de toute manière, je ne sais rien faire d'autre, je n'avais vraiment pas le choix. Pas le choix, ça suppose accepter les boulots de commande. Et c'est comme ça, donc, qu'il sera le nègre de Jimmy Gueux pour la série Blade et Becker et Les Chevaliers de Lumière. Bon, Jimmy Gueux, à l'époque, cherchait, il était sur la base du succès avec ses petits gris, il cherchait quelqu'un qui pourrait écrire certains de ses bouquins. Il m'avait approché une fois à Fayence pour savoir quel genre de science-fiction j'écrivais. Ma réponse n'a pas dû lui convenir. Il pensait à Richard et Nolan, mais Nolan, il écrivait déjà les Blades tout court, donc il était pris. Et il s'est donc finalement tourné vers Roland, qui était le plus à même de répondre à la demande. Alors même que, disons que sur le plan politique ou des idées, Roland et Jimmy Gueux, c'était pas tout à fait la même chose. Jimmy Gueux l'avait peut-être inscrit dans son petit carnet noir, il avait un carnet avec les auteurs qu'il considérait de droite et les auteurs qu'il considérait de gauche. Bon, donc cela, il ne pourrait jamais travailler avec Jimmy Gueux. Pour Roland, ça allait. Pourquoi ? Parce qu'il était sincèrement admiratif de ce qu'a pu faire Jimmy Gueux au cours de sa carrière. Alors il signait de pseudonyme, c'était écrit avec Richard Wolfram, là il réactualise un pseudonyme de l'époque des fanzines, et il s'éclatait vraiment à écrire ses Jimmy Gueux, Et en même temps, c'était une phase d'apprentissage pour lui. Essai de certains scénarios, et parfois même essai d'écriture, il pouvait faire un petit peu ce qu'il voulait là-dedans. Je ne pense pas que Gignigueux était vraiment très attentif sur ce qu'il faisait. Pardon ? Il avait écrit une parodie aussi, oui, oui, bien sûr. On remarquera justement que c'est durant cette période où il travaille pour Gignigueux qu'il publie, sous son vrai nom donc, des textes plus exigeants ou expérimentaux. Fragments du Livre de la Mer, qui a eu le prix Tour Eiffel 98, HPL, Rosny 98, Musique de l'étrange, et qu'il développe la saga de thèmes au fleuve noir. Donc progressivement, il va abandonner sa collaboration en mettant le pied à l'étrier à Rémi Gallard. Ils écrivent les bouquins ensemble, simplement parce que les futurs mystères l'accaparent et que c'est là son feuilleton cette fois-ci et son héros récurrent. Bon, il l'a dit à plusieurs reprises, il n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre, il se contente de peu. Il préférait cette situation au boulot tranquille comme salarié. Mais j'ai aussi vu par moments accuser une certaine lassitude, quand le succès tardait à venir ou qu'il ne correspondait pas de toute façon aux attentes sur le plan financier. On a du succès, mais on est toujours endetté. Notamment une discussion en voiture, Sylvie était là dans la région PACA, je ne sais plus dans quel salon on allait, l'organisatrice nous convoyait un soir, et là il disait le peu de cas que les éditeurs faisaient envers leurs poulains, qu'ils exploitent et puis ensuite qu'ils ignorent dès que les ventes baissent. Ça sera cette époque où il se fâchera successivement avec le Fleuve Noir, qu'il avait bombardé directeur de collection de grand format, on en a parlé hier, il y a eu un seul bouquin qui est sorti, c'était donc La Grande Séparation de Gigi Arnaud. Et donc il se disait, je suis directeur de quelle collection? Ils ont déjà arrêté la collection sans même m'en informer, sans même avoir les chiffres de vente. Il se fâchera aussi avec Gélu, qui n'essaye pas vraiment d'entretenir le fond, et il trouvera refuge à la Talente à la fin. Donc il le dit lui-même que le contexte n'était pas favorable quand il a commencé. Son sens de la formule, qui est toujours le même, fait qu'il a donné à ça le nom de « Génération perdue ». Une critique de l'œuvre du diable de Pagel, bon, ben, il dit toujours... À l'époque, ce fut tout naturellement que ces auteurs-là trouvèrent un espace de liberté au fleuve noir parce qu'ils préféraient raconter des histoires plutôt que de se réfugier dans ceux qui privilégient la forme. S'installe peu à peu sous la direction historique de Patrick Siri avant de s'imposer au tournant de la décennie sous la tutelle bienveillante de Nicole Hivert. Comme Michel Pagel, j'ai appartenu à ce vague groupe en compagnie de Claude Equen, Michel Onaker, Richard Canal, Jean-Marc Ligny et Jean-Claude Duniac. Les deux derniers de la liste avaient été publiés dans la collection Présence du Futur, place forte des lithotripteurs, avant de passer au Fleuve Noir. Quant à Canal, il avait sorti un premier roman en grand format, ce qui était exceptionnel à l'époque, aux éditions La Découverte. Plus tard, nous avons été rejoints par Laurent Jeunefort, Ayerdal et Don Erial. Certains d'entre nous ont pseudonymisé quelques livres. N'est-ce pas? Et la génération perdue s'est diluée à la fin de l'année 91 avec le changement de direction à la tête d'Anticipation. Le bilan de ces 4 années est clairement positif. Il est paradoxal de constater que cette période s'est achevée alors que la mode, avec un bon lustre de retard, était passée au retour du récit. Un retour inutile pour Michel Pagel qui ne s'en était jamais écarté. Donc là, on voit le militant qui va défendre la science-fiction. Critique à Casus Belli, déjà, il essayait de défendre les auteurs de science-fiction française et d'établir des passerelles avec les jeux de rôlistes. D'ailleurs, une convention de jeux de rôle à Orléans, il nous a initiés aussi aux jeux de rôle, Pierre Bordage et moi. Là aussi, c'était un vœu de l'organisateur, Olivier Portejoie, d'établir des liens entre les jeux de rôle et la littérature de science-fiction, ou de l'imaginaire en général. Les discussions incessantes sur les salons, vous connaissez, les nuits blanches, on le sent attaché à toujours recueillir un avis, à toujours discuter avec tout le monde, surtout lorsque la personne n'est pas d'accord, pour arriver à le convaincre ou pour avoir un argument qui lui permettrait peut-être de nuancer ses propres propos. C'est le seul qui, le lendemain, est encore prêt à discuter alors que les autres ne sont même pas encore levés. Bon, peut-être qu'avec ses lunettes noires, il s'endormait rapidement sans que personne ne le remarque sur les salons. Il traque les commentaires sur le net pour répondre à tous les avis erronés à ses yeux, pour défendre ses propres écrits contre certains qui n'en mesurent pas la portée ou ce qu'il avait voulu faire. Il est sur tous les forums sous de multiples pseudos, pseudos qui en fait sont toujours transparents volontairement, hein, Bouze Bleuâtre, LGM, polémiquant sans cesse. Moi j'avais déjà dit une fois, mais je vois pas où tu trouves le temps d'écrire et de répondre à tout ça, il faut déjà lire les forums pour pouvoir y répondre, moi j'y vais jamais. Et Sylvie m'expliquait que chez lui ça ne posait aucun problème parce qu'il avait l'esprit éternellement en alerte. Tout ça est une telle préoccupation chez lui que il maîtrise le sujet par quel que soit le bout par lequel on le prend. Donc à partir de là, il lance une réponse, il travaille et puis il répond dès qu'il y a quelque chose qui a bougé là-dessus. Et comme il tape très vite, ben, ça ne lui prend pas vraiment de temps. Il interpelle de même les signatures de la grande presse. On l'a vu faire des droits de réponse, enfin envoyer des réponses, des courriers de lecteurs dans le Monde ou ailleurs. Dans le Monde, c'était avec Ruffin, qui avait limité l'histoire de la science-fiction française à la SF politique et formaliste dans les années 70-80. Donc, tout de suite, il est intervenu pour dire que sa vision était fausse et qu'il y avait la génération perdue, bien entendu. Il ne polémique pas pour se fâcher, c'est toujours pour rétablir certaines choses. D'ailleurs, il reconnaît que lorsqu'il est face à des gens de mauvaise foi, il se fâche. Il dit, tu comprends, lorsque les gens sont de mauvaise foi, moi je m'énerve. Donc bon, il regrette que parfois ça devienne des polémiques. Son but, c'est donc toujours expliquer, discuter, argumenter. Le fait même, alors qu'il insiste dans ses romans sur les langages, les dialectes et les accents, montre bien qu'il est sensible aux différences de perception de chacun, en fonction du contexte, en fonction de son histoire. Et voilà pourquoi aussi il veut parler avec quelqu'un, voir si le mot qu'il met derrière space opera est bien le même, si ça a bien le même sens. On est toujours dans des questions de vocabulaire et de point de vue. Voilà peut-être pourquoi il se méfie du style. Le style renvoie à l'écriture, à une mise en scène travaillée qui parasite l'impression première. Lui, il en revient toujours à sa perception. Au moyen de l'augmenter, il cherche la vérité du spontané. La musique, du coup, participe de cette quête. Elle s'adresse plus directement à la conscience. Elle parle de façon universelle, bon, on le sait bien. On va peut-être sauter quelques extraits. Bon, vous savez que mon rêve de gloire, ça ne parle que de musique. Mais je me souviens, il faut quand même dire un petit passage. Mine de rien, l'orchestre avait commencé à plier son matériel. Quelqu'un a sauté sur scène, un petit intello à lunettes tout maigre, avec un fin collier de barbe, j'avais souvent vu discuter avec Tim, il a saisi le micro et il a crié que la musique ne devait jamais s'arrêter, parce que c'était la musique qui sous-tendait le monde et que sans elle, il s'effondrerait. Voilà donc sa vision de la musique, qui est beaucoup plus universelle peut-être que la musique lui-même. Et le petit gars tout maigre qui vient prendre le micro, ça rappellera pas mal de choses à certains. Lorsque l'orchestre est un peu lourd, par exemple Montfort-sur-Argent, nous avions un orchestre plutôt Balmusette et autres qui venaient distraire les participants à la convention. Et bon, Roland trouvait ça lourd, il a dit, attendez, je vais vous montrer comment on fait de la musique, et puis ça y est, il a pris le micro, il a commencé à jouer, à chanter, il est monté sur les tréteaux, et puis évidemment, les tréteaux n'ont pas supporté son poids, il s'est cassé la gueule, bon, tout le monde se souvient de ça. Puisqu'il perçoit l'importance du rock, il faut qu'il connaisse tout du rock, l'histoire du rock, les conditions de fabrication, et il faut qu'il en fasse aussi. Donc, Brain Damage, vous connaissez, il écrit les chansons, il chante, il assure les spectacles. Voilà, ces spectacles, enfin ces textes renvoient souvent à ses propres écrits de science-fiction. Il y a une certaine porosité entre les deux. Norman Spinrad, dans sa préface à Musique de l'énergie, remarque qu'il est le seul Français à oser s'attaquer à l'histoire du rock. Il a sans doute écrit plus de SF sur le thème du rock que tout autre auteur, y compris Moorcock et votre serviteur. Et d'une façon à la fois romantique, je retiens le terme, et froidement analytique, comme il le fait dans Musique de l'énergie. Contrairement à Dick, Wagner est un véritable romantique psychédélique. Et pourtant, contrairement aux autres, Wagner analyse aussi d'un œil lucide les aspects destructeurs des drogues et des cultures alternatives qu'elles génèrent. Ce n'est pas qu'un tour de force, il fallait un grand courage ou une grande naïveté pour l'écrire. Ainsi, Wagner démontre qu'il est le plus sophistiqué des auteurs français de science-fiction connaissant la rue. Impossible de croire qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. En voyant ce que donne ce courage, je vous donne un extrait de Musique de l'énergie. Qu'est-ce que tu croyais ? Que les puritains qui gouvernent le Great Washington avaient l'intention de rouvrir la porte à la subversion ? Tu rêves. Le rock pour eux, c'est l'œuvre de Satan, l'empreinte du démon. La fameuse trilogie, tu sais, sexe, drogue et rock'n'roll. Ils vous ont invité pour voir, ils ont vu, et leur opinion est faite. Man, l'Europe doit être éradiquée. Alors, il y a des chances qu'ils commencent par les rockers qu'ils ont sous la main, non ? Spinrad, évoquait musique de l'énergie, mais Roland a depuis grandement illustré ce point de vue dans Les Futurs Mystères et surtout dans Rêve de gloire, où il reprend l'histoire du rock de manière à rendre perceptibles ses points de vue, en modifiant justement certaines choses. Il connaît le buzz, donc il peut bouger tous les éléments à sa guise. On y voit donc un collectionneur traquer un disque rare particulièrement convoité. Ses possesseurs sont mystérieusement assassinés, je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais on voit qu'à partir de là qu'on remonte aux origines du rock et à ses causes. Il est intéressant de noter que Spinrad loue de la même façon la clairvoyance de Roland. Personne n'a encore exploré le thème avec un tel courage et un tel savoir, tout en démontrant une telle connaissance des rapports entre la drogue, le rock et la culture, sujet que la plupart des auteurs évitent comme la peste. Le rock et les drogues ont écrit l'histoire de l'Amérique, du somnambulisme des années 50 jusqu'aux années 60 voué à la culture alternative, puis sur la guerre anti-drogue des années 70 qui se continue encore aujourd'hui et empoisonne l'esprit américain et le reste du monde, jetant en prison des millions d'Américains et déstabilisant la moitié de l'Amérique latine. Et en réprimant cette histoire vraie que raconte Roland Wagner, on transforme l'histoire officielle en un mensonge et fait du rêve américain un cauchemar au cœur vide. Peut-être fallait-il qu'un écrivain français brise le mur du silence. Après tout, c'est un autre Français, Alexis de Tocqueville, qui a écrit « La démocratie en Amérique » au XIXe siècle. Rien que ça. Donc, l'usage des substances psychédéliques est assez fréquente dans l'œuvre de Roland, mais elle n'est pas gratuite, elle va soutenir l'origine de la psychosphère. Un extrait, Biard, qui ne crachait pas sur les drogues dans sa jeunesse, était d'accord avec moi. La nuit où le lemme d'Apollo 11 s'est posé sur notre satellite était le moment idéal pour un voyage lysergique. Il a même employé l'expression « mégatrip » quand j'ai émis l'idée, avec un sourire rêveur. Je n'aurais jamais imaginé que le gentil petit vieux dont je me souvenais avait pu être un fêtard. Quand je l'avais rencontré, quelques mois avant sa mort, il se contentait de fumer du tabac, des cigarettes brunes qui empestaient. C'est en tout cas un moment important, poursuivait Wolgenstein. L'attention d'une partie considérable de la population de la planète était captée par un unique événement. La voilà, la grande première. Près d'un milliard de téléspectateurs. Et parmi eux, combien de psychospectateurs ? Cette nuit-là, l'inconscient collectif de l'espèce humaine a achevé son processus d'unification. Je croyais que c'était avec la découverte des papous. Il a roulé de gros yeux. Décidément, vous ne suivez pas. La réunification des années 1930 concerne le monde physique. Le phénomène de la nuit de la Lune se place sur un plan mystique. Aldrin, Armstrong et Collins ont-ils été coupés de la psychosphère ? Ont-ils emporté avec eux leur petite psychosphère personnelle ? J'aurais tendance à penser que oui. Mais plus j'y réfléchis, plus je me dis que c'est sans importance. N'oubliez pas que toute l'attention de l'espèce humaine était braquée vers eux. On marche sur la Lune, voilà la pensée qui a dominé cette expérience collective. Et voilà comment donc serait née la psychosphère. Donc, quand Roland s'intéresse aux psychotropes, c'est pas pour la défense, pour s'abstraire du monde, pour l'abrutissement, mais pour l'accès à d'autres formes de conscience, un élargissement des perceptions, toujours dans un but de connaissance, de découverte. Il se rend compte aussi que la musique est peut-être insuffisante pour cela, et qu'il y a peut-être d'autres moyens. Alors, un petit extrait, si on a le temps, on va... Yves se souvient d'un nuage qui pétillait. Un nuage aux nuances changeantes, dont la densité ne cessait d'augmenter. Et d'une certaine manière, Yef était ce nuage, prêt à s'étendre jusqu'aux limites de l'univers. Mais on l'en a empêché, et le nuage s'est dissipé, lui rendant sa liberté. Incapable de réprimer le tremblement de ses mains, Yef se souvient de tout cela. Il énumère lentement les niveaux de conscience connus de lui, cherchant à situer le plan sur lequel s'est déroulé ce phénomène troublant. Il se souvient de ce nuage, mais ce n'était pas un nuage. Et il est incapable de le qualifier, de le décrire, de le définir. Il comprend soudain qu'il est pris dans un piège sémantique, lui, le linguiste. Ni le franc-interne, ni le francien, ses langues maternelles ne lui fournissent les mots appropriés. Inutile de sonder le svon ou l'urgal, tous deux s'avèrent d'une grande pauvreté lorsqu'il s'agit d'exprimer aussi bien des sensations que des concepts abstraits. Et le bulgrove ne lui est d'aucune utilité non plus. Toutes ces langues, toutes ces mentalités résumées ne servent à rien. Ceux qui l'épargnent n'ont jamais eu à décrire cela. Alors Yves se rappelle le Jordan et l'accent tonique inédit employé par Klein quelques minutes ou quelques heures auparavant. Avec un léger effort, il parvient même à penser dans ce langage. Et le souvenir qui commençait à s'affadir reprend soudain de la vigueur. Il y avait ce nuage qui pétillait et ces arcs de lumière noire qui traversait cet espace. Oui, c'est plus facile ainsi, même si la perfection demeure encore bien éloignée. Plus le nuage est devenu dense, bourgeonnant des pseudopodes, il a cherché à s'étendre et les bulles lumineuses ont éclaté. Yev se met à rire. Tout ceci est dénué de sens. Vous, vous avez connecté, observa Klein. Donc voilà, on est dans des expériences complètement différentes. Très bien. C'est pas pour rien qu'il y a toujours un œil dans ces histoires. Et peut-être aussi que Philippe Casa a fait cette belle carte postale avec Roland et un œil sur le front. Donc, on voit une fois de plus le caractère éminemment cérébral de la quête de Roland, qui, justement, disait toujours qu'il ne voulait pas non plus faire de gym. Attentif quand même à ne pas prendre trop de bière pour ne pas prendre de ventre. Mais ça, c'est peut-être plutôt l'opinion d'un autre Roland, Roland Barthes, qui disait que lorsqu'on veut être un pur esprit inventif, aérien, léger, on n'a pas envie d'avoir un corps qui a pris du poids. Il s'agit pas de devenir un pur esprit, mais de favoriser une communication totale entre les êtres. Et chez lui, après que les psychotropes étaient nés, au-delà du langage, de la musique qu'on a vu, il y aura des pouvoirs psy, des télépathes et surtout des empathes. Donc les empathes, ce sont des gens, des animaux qui perçoivent et ressentent des choses. Ce que je suis, tu l'es, même si tu ne le veux pas. Ce que tu es, je le suis. Pourquoi ne l'as-tu pas senti plus tôt? Pourquoi t'es-tu fermé? Il y a donc toujours cette quête. Elle va avec les animaux. Je ne vais pas vous parler de Maèdre, je suis obligé d'aller vite, donc je passe avec les animaux de cette crédit. Mais cette empathie oblige justement de se positionner autrement. Donc de faire la paix, pas seulement avec l'humanité entière, mais avec... avec des animaux aussi. Donc il y a un refus total de la violence. La violence disparaît progressivement des romans de Roland. Il en identifie d'abord les causes, une fois de plus. Sur la planète mère, les assassins relevaient en général du domaine sociopsy. Il s'agissait toujours d'individus inadaptés, incapables même de s'adapter, chez qui la pression sociale devenant trop forte provoquait des crises de furie sanguinaire, amok. Tandis qu'ici, le Khan parfait avec lequel l'homme avait annoncé ma condamnation à mort à bord de l'avion montrait à l'évidence que les killers océaniens n'avaient rien à voir avec leurs confrères terriens. Et donc, à partir de ce constat de violence, il avait d'abord développé une sorte de psychisme psy qui concernait l'ensemble des individus d'une planète. Il a trouvé que c'était peut-être coercitif, puisque on n'avait pas à choisir, et ce qui fait qu'il pouvait préférer un cataclysme, quelque chose extérieur à l'humain, indépendant de sa volonté, qui va complètement transformer les gens. Indépendant de sa volonté, mais qui vient quand même d'un psychisme collectif, hein, puisque c'est l'ensemble des gens qui, prenant des substances psychédéliques, vont générer la psychosphère, l'ensemble de l'esprit. Il va mettre des psychosphères sur chaque planète, il y en a une sur Océan. Et il y a donc une interconnexion avec tout le vivant, tout le monde du vivant. Donc cette fois-ci, il faut aussi respecter les animaux, ce qui va le mener au végétarisme. Et à ce moment-là, une fois de plus, il en prend acte et il agit, c'est-à-dire il devient végétarien et il écrit un bouquin sur la violence des mangeurs de viande, une sorte de trafic qui se passe sur la planète dans cette crédit, la planète océan dans cette crédit qui nous ronge. Cette psychosphère inclut nos animaux aussi, des chats mythiques qui rejoignent à la mythologie. Il y a le Rorschach, qui est une idée inspirée d'un dessin de Casa. Il y a là aussi des liens et des ponts qui se font entre l'auteur et l'illustrateur. Il lui donne, tu l'as raconté un peu hier, il lui donne à lire le bouquin avant que ce soit terminé, et il saute sur la première occasion en voyant un dessin pour appeler le chat Rorschach. Si je me souviens bien, le chat, c'était le chat de Roland. Donc, en même temps, mais c'est pour ça que la famille, il va demander à Casa de dessiner toutes ses couvertures. Et je me souviens, à la rencontre à Montpellier, on était tous les deux, il était sorti fumer une cigarette ensemble, et on a vu Casa de loin qui sortait d'un bistrot, je ne sais pas ce que tu vois, Et aussitôt, il a profité pour me dire, tu sais pas ce qu'il a fait. Il m'a donné l'original de Poupée aux yeux morts. Mais j'avais l'impression de voir encore un adolescent qui parlait comme un fan de la première heure, alors que bon, Roland était quand même devenu un écrimin et qu'ils se connaissent depuis longtemps. C'était quand même l'enthousiasme des débuts que je voyais, que j'entendais là. Cet engagement militant, on le voit partout. Il va parler aussi, alors peut-être pour les animaux, d'honorer le cochon. Justification délirante, qu'est-ce qu'un cochon pourrait faire avec la picosphère? Il agit toujours avec son instinct. On se souvient du plaisir qu'il a à marcher sur le fil du rasoir en tentant de justifier des délires extrêmes. Donc, végétarien, empathie, rock, rock'n'roll. Ce qu'il dit, c'est pour ceux qui ne verraient pas le rapport entre le rock et un cochon transgénique, il se trouve que celui-ci entre dans une transe mystique quand il entend celui-là. Voilà, la question est réglée. On a souvent dit qu'il était aussi le premier à écrire comme aux États-Unis. En fait, bon, ça c'est faux, on l'avait déjà dit à l'époque pour l'écriture de Pelot. Mais par contre, puisqu'il s'intéressait au rock, il est obligé de s'intéresser à ses origines, les origines sociales, les États-Unis, et donc à partir de là, progressivement, il va aussi être un grand connaisseur de l'Amérique. Tout ceci étant aussi transposé dans ses livres. En fait, tout ce qu'il apprend et tout ce qui le fait réagir se retrouve dans ses écrits. Ce qu'il vit aussi, les chats, c'est aussi parce que son chat avait disparu. Je vous donne un petit passage. Le menhir solitaire se dresse dans la nuit tiède, au creux d'un repli de terrain situé non loin de la route goudronnée qui se sinue à travers les bois de Meudon et de Clamart. Il doit être près de minuit, mais il n'y a pas si longtemps que l'obscurité a étendu son voile sur la forêt paisible, car la conjonction de l'approche du solstice et de l'heure d'été allonge démesurément les soirées. Et cette pierre est celle qui est le nombril du monde, c'est un extrait du nombril du monde, où donc des prêtres vont essayer de générer des énergies fantastiques à partir de là. Quand j'étais chez lui, il a absolument tenu à me conduire dans la forêt et à me balader assez loin pour me montrer ce menhir en partie enterré. Il voulait absolument me faire partager son univers, ce qu'il pensait, ses convictions, ses intuitions. Il fallait que je les approuve et comme chez les autres aussi, il fallait qu'il connaisse tout. S'il vient chez quelqu'un, il faut d'abord qu'il voit le bureau, l'endroit où il travaille et sa bibliothèque. Et là, il dit, tiens, il te manque tel bouquin. Ça, c'est la première des choses qu'il remarque. C'est un peu redoutable. Au cours de la même période, il est en opposition avec la mairie du Plessis-Robesson. Hein. Il pense qu'on a tué son chat. Et je me souviens qu'il le disait, je portais mon chat dans la rue et en disant, ils l'ont tué, mon chat est mort. Il marchait comme ça seul dans la rue. Il pensait que la municipalité voulait chasser tous les pauvres du coin pour ne garder qu'un petit enclos bien bourgeois. Et il y avait une revue municipale avec un plan de quartier et puis des doigts pointés dessus qui montrent qu'il y a un plan d'urbanisme. Et tous ces doigts, de au moins 6 ou 7 personnes, pointaient uniquement sur sa rue. Il dit, vous avez vu, ils m'en veulent, il faut que je parte. Alors il y avait un petit côté parano chez lui, la parano, il l'intégrait et il en fera évidemment un bouquin. Lorsque vous voyez Un futur mystère de Paris, on y retrouve aussi bien le nombril du monde retransformé que tout ce qui s'est passé au Plessis Robinson. Toute l'affaire a commencé en réalité après la terreur dès les premiers soubresauts de l'élan utopique. Pendant que les grandes métropoles et leurs banlieues se dépeuplaient au profit des petites villes et des campagnes, le Plessis Robinson n'a connu qu'un déficit de population tout à fait négligeable. Je saute un petit peu. Si Thème de Pipe Guissu tient ses conclusions, ne s'est pas trompé, les démons et les technotrans se sont associés pour faire du Plessis Robinson une cité close, une banlieue paranoïaque dont les habitants médusés n'éprouvaient jamais de besoin de sortir, et sur un autre plan, une enclave à 8 dimensions dans la réalité consensuelle. Et pas très loin de là, dans le bois de Clamart, se dresse la pierre aux moines, seul menhir de la région parisienne, un caillou à moitié enterré, guère impressionnant à première vue. Nul ne se douterait qu'il marque l'emplacement d'une faille par où la psychosphère et la réalité consensuelle continuent à communiquer directement plus d'un demi-siècle après la terreur. Bon, on voit comment tout ce qu'il vit, tout ce qui arrive, voilà, est intégré. J'essaie de finir au plus vite pour dire que, autour de tout ça, de la psychosphère, le mot-clé que je retiens, que j'ai repéré dans le champ du cosmos, c'est l'harmonie. L'harmonie, c'est tout ce qui circule sans heurts, c'est ce qu'il a essayé d'atteindre. Dans Fragments du livre de la mer, on lit mon histoire. Le mot-clé est complémentarité et cohésion, son corollaire. Nous ne faisons qu'un. Nous sommes le biote, le tout plus grand que la somme de ses parties, où chacun joue un rôle, de l'humble bactérie à la pensive baleine. La symbiose qui unit l'ensemble des créatures vivantes est plus profonde qu'il n'y paraît. Donc voilà, je crois qu'à partir de quelques lectures, on a pu voir comment Roland a investi tous les domaines qui lui plaisaient, a essayé d'en faire un tout, une unité, et a essayé d'échanger vraiment avec tout le monde. J'avais, moi, dans un article, comparé le bordage à Alexandre Dumas, car il me semblait témoigner de la même veine épique et du même sens de l'histoire riche en rebondissements. S'il me fallait comparer Roland à un autre illustre auteur de lettres françaises, je crois que je choisirais Voltaire, les défauts en moins, hein, son obsession de la richesse, le racine de la méchanceté, parce qu'il en avait la verve et la vivacité d'esprit, la légèreté dans l'art de retomber sur ses pieds, et aussi de prendre la défense des opprimés et de concourir au rétablissement de la justice ou de la vérité. J'ai oublié de dire qu'il s'est aussi battu pour Adopi et au point d'écrire un texte avec Sylvie qui a été lu à l'Assemblée nationale. Et là, il prend la défense de tous les auteurs. Le texte a été écrit au nom de tous les auteurs de science-fiction, au nom de la science-fiction. Donc on peut lui laisser le mot de la fin, Roland. J'avais déjà décidé à l'époque que le seul truc intéressant dans la vie, c'était écrivain de SF, parce que astronaute, c'est génial, mais il faut quand même attendre vachement longtemps avant d'aller dans l'espace. Et puis, il faut se taper tous les militaires. Je me suis dit que, de toute façon, en tant qu'écrivain, j'irai plus loin que les astronautes. C'est ce qu'il a fait.
Les badges sont en banque, au bas.
Ravi d'avoir été obligé de partir deux fois parce que j'ai raté le livre.
Alors voilà le topo. Notre traiteur va avoir besoin de